s'est entendu à dernière nouvelle.
L'Insider Hockey. Aux quatre coins de la ligue, tout le monde lui parle. Puis il fait parler tout le monde.
The one, the only.
L'Insider Hockey. Renaud Lavoie.
Salut Renaud.
Salut Ren.
Bon, ça va, Ren?
Comment ça va? Super bien à Chicago, le lendemain de cette superbe victoire des Bears hier face aux Saints.
The Bears!
The Bears! Ouais.
The Bears!
C'était les Saints, ils battent personne, finalement.
Ah, ils sont vraiment mauvais, on va se le dire. Il y a pas grand monde là-dedans qui mérite une petite étoile à son cahier. Ça, c'est clair. Puis non, hier, c'était une journée d'automne, frisquet, pluvieux. La pluie a arrêté pour le début du match, mais de voir arriver le soleil au quatrième quart là, pour la célébration de la victoire, c'était de toute beauté. Je vous souhaite un jour, tout le monde, d'aller vivre un match au Soldier Field avant qu'ils construisent un nouveau stade. C'est le plus petit stade de la NFL. Donc, c'est le plus intime, d'une certaine façon. Hein? Oui, il est vraiment fait comme une, si tu veux, comme une bulle, d'une certaine façon. Puis, il n'y a pas un mauvais billet dans ce stade-là. Alors, profitez-en, parce que c'est pas tous les stades de la NFL qui sont bâtis comme ça. En fait, c'est le seul qui est bâti de cette façon. Puis, ça fait en sorte que...
Tu es plus proche de l'action?
T'es dans l'action. Il n'y a pas une autre façon de le dire.
C'est comme l'ancien, l'ancien Chicago Stadium. Tu te rappelles, Renault, la même chose.
Ben oui. Ouais, c'est même exactement affaire. Ça. Le, même le forum, le Boston Garden.
C'est quand même 60 000 places. Hein, c'est pas.
Oui, mais quand je dis le plus petit, c'est la façon dont le. C'est ça, c'est très compact de la façon dont le stade est construit. Je vous le dis, là, c'est comme une bulle. Là. T'es vraiment. Écoute, ceux qui doivent aller. D'un côté du stade, tu as des loges. De l'autre côté, là, c'est vraiment les estrades pour avec les billets les moins chers. Là. Et quand tu montes, là, je regardais ça hier, là, tu montes à pic, pas juste un peu. Là, c'est assez impressionnant.
Sont-tu up-to-date pour les gens, les concessions et tout ça en dedans? Ou c'est un...
C'est électronique, là, dans le sens que oui, on l'est, mais je vous conseille fortement de manger avant le match ailleurs, parce que ce qui se mange dans ces concessions-là,
c'est de la scrap.
C'est pathétique. C'est honnêtement, ouais, ben. c'est ma plus grande déception du stade. C'est vraiment... Ah, okay. Écoute, c'est infect. Il n'y a pas un autre terme.
Infect, mon Dieu.
Yes, okay.
C'est bon de savoir.
Ça donne le goût d'aller au Soldier Field.
Ça donne le goût de parler nachos en calvados.
Non, mais l'an passé, je n'avais pas déjeuné avant d'aller au stade. Oh, puis j'avais mangé des bâtonnets de poulet, là. Faut le faire, les rater comme ça. Là. C'était aussi, écoute, c'était dur, ça n'avait aucun bon sens.
OK, c'est bon. Renaud, je ne sais pas ce que tu t'en vas avec tes skis. On a eu une belle preuve samedi que les matchs préparatoires et les matchs de saison sont très différents. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, c'est parce que dans les matchs préparatoires, je regardais Owen Beck jouer, je regardais Joe Veleno jouer. Puis Tabarouette, je me disais, ces gars-là sont vraiment pas loin. Les cognes à une porte dans la Ligue nationale, ils sont vraiment pas loin d'être des joueurs qui vont être des réguliers dans la Ligue. Surtout Owen Beck, là, parce qu'on sait que Joe l'a déjà été dans la Ligue nationale avec d'autres formations, c'est ça. Alors que Owen Beck, lui, tente de percer la Ligue nationale. Puis, c'est là où je m'en vais avec mes skis, comme tu dis bien, Anthony, c'est que avant le match de samedi, il y avait le narratif suivant que j'entendais tout le temps. Sans Kirby Doc, sans Patrick Laine, dans la formation, le Canadien est meilleur avec Owen Beck et Joe Veleno.
Mm-hmm.
Je peux te dire une chose. Dans notre avant-match, on en a parlé de ça. Je me suis un peu élevé contre cette affirmation-là. Et j'en ai juste eu la preuve encore plus tangible dans le match de samedi soir. Ceux qui disent que Patrick Laine n'est pas un joueur important pour l'équipe. Ceux qui disent que Kirby Doc n'est pas un joueur important pour l'équipe, ils le sont tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par des joueurs de leur calibre d'une certaine façon. Je veux dire, et ce n'est rien contre Joe Veleno, ce n'est absolument rien contre Owen Beck, ce sont deux joueurs de hockey que j'aime beaucoup, mais ils ne sont ni Patrick Laine ni Kirby Doc.
Mais qu'est-ce que Laine aurait fait qu'un gars comme Joey Veleno n'a pas fait samedi? C'est sûr que Veleno n'a pas été sur le power play, mais à part ça dans la game, là.
Ben, c'est un joueur qui est dangereux quand il a la rondelle sur son bâton. Okay. C'est un lancer frappé qui est pas mal meilleur que celui de Joe Veleno.
Ah, ben ça, oui, combien de fois qu'on l'a vu cette année à 5 contre 5 être dangereux, Patrick Laine, Renaud?
Ben, moi, je l'ai vu pas mal plus souvent que l'an passé.
Pas tant que ça.
Oui, puis, Si Owen Beck remplace, remplace Patrick Laine, là.
Owen Beck, on l'a pas vu. Je suis d'accord avec toi.
Puis encore là, on peut-tu donner la chance à Owen Beck d'avoir un autre match ce soir?
Mais c'est pas le même genre de joueur non plus, là.
Non, c'est ça, exactement. Mais je pense que Owen Beck est capable de faire aussi des bonnes choses. Mais Patrick Laine est meilleur dans la vie que Owen Beck et est meilleur que Joe Veleno aussi. Il est meilleur que les deux joueurs. Alors, c'est palpable. C'était visible dans le match de l'autre soir. Ça a fait en sorte que Martin Saint-Louis est obligé de réduire son banc de beaucoup. On a fait jouer ces gars-là de seulement 8 minutes. C'est sûr qu'après ça, tu veux rattraper le match. Tu veux essayer en troisième. Mm-hmm. Non seulement d'égaler le match, mais d'aller le chercher. C'est sûr que ces gars-là vont moins jouer. J'en conviens, tout ça. Mais en même temps, tu sais, Patrick Laine, c'est un gars qui a une arme extraordinaire en avantage numérique. Puis dans le cas de Kirby Doc, tu sais, Kirby, c'est sûr que visiblement, il traînait quelque chose là, au bas du corps. Là. Je l'ai vu d'ailleurs dans le match de jeudi. Il n'était même pas capable de quand il était sur la glace, de monter pendant un arrêt, un TV timeout, un arrêt publicitaire. Mm-hmm. Même pas capable de monter de la bande d'un côté. Là. Il fallait qu'il prenne toujours la même jambe pour passer par-dessus la jambe. Là.
Un autre blessure à l'aile, lui aussi, ou quelque chose?
Ça ressemble à ça, évidemment.
Ouais.
Donc, tu regardes tout ça et tu te dis, OK, il n'était pas nécessairement le plus rapide, mais tu voyais qu'il combattait quelque chose. Mais c'est un gars aussi qui est intelligent sur une patinoire, qui est capable d'alimenter ses coéquipiers, etc. Donc, tu sais, je sais que ce ne sont pas des joueurs parfaits. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, OK. Mais tant et aussi longtemps là, qu'ils ne sont pas remplacés par des joueurs de leur calibre ou supérieur, ben qu'est-ce que je te dis? Ils ont leur place dans la formation des Canadiens de Montréal.
Ouais.
Puis moi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, puis c'est ma vérité par rapport à votre vérité. J'ai pas de problème avec ça. Chacun a le droit à sa vérité. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne me prouve pas le contraire, ben je vais rester avec Patrick Laine et Kirby Doc dans la formation des Canadiens, sans aucun doute.
Moi, je vais continuer à penser que Laine, depuis le début de la saison, n'a pas été une nuisance, nécessairement, pour le Canadien.
Exact.
Je pense pas qu'il a été un contributeur, mais je pense pas qu'il le nuit tant que ça.
D'accord.
Cela dit, je pense que si on allait voir Jake Evans, puis qu'on lui demandait après le match, off the record, as-tu aimé ça jouer avec Anderson et Gallagher? Je pense que c'est une évidence. Et ça t'amène un trio quand même stable sur lequel le Canadien peut se fier et peut amener dans différentes situations. Tandis que Laine, c'est rien contre lui. Mais clairement, on essaie un peu de le cacher sur cette unité-là parce qu'on veut l'utiliser seulement en avantage numérique. C'est ma lecture de la situation.
Oui, oui, puis c'est correct. Mais ça fait en sorte que tu avais 4 trios équilibrés, pas juste un peu. Puis je peux te dire que samedi, tu n'avais pas 4 trios équilibrés, pas juste un peu.
Comprends.
Puis c'est ça la grande différence. Puis oui, effectivement, d'accord aussi avec la façon dont tu vois les choses sur Patrick Laine, mais que tu le veux ou que tu le veux pas, ce lancer-là, c'est une arme puissante. Quand je regarde le but d'Ivan Demidov mardi soir, une chance que c'était Patrick Laine qui était sur la patinoire avec lui pour lui faire cette passe-là, à travers je sais pas combien de personnes, puis il a réussi à la faire. Il y avait une chimie qui était en train de s'installer entre ces deux joueurs-là. Mais oui, effectivement, dans le cas de Patrick Laine, ce serait pas mal plus de fun de le voir sur un trio offensif à 5 contre 5 que sur un quatrième trio. Mais au moins, ce que j'aime dans le cas de Patrick Laine, attitude A++1, j'en ai déjà parlé, mais quand il revient après une présence, que ça soit bon, ordinaire, correct ou mauvais, il revient toujours de la même façon. Il revient comme un professionnel, se fâche pas, essaie pas de casser son bâton, essaie pas de se donner en spectacle. Il revient au banc, fait sa job, that's it. On pense à notre prochaine présence. Moi, l'attitude de ce gars-là depuis le début de la saison, elle est selon moi irréprochable.
Bon, Renaud, je veux t'entendre. Parce que là, il y a des trucs qui circulent sur Internet. Puis des fois, je pense qu'on part en peur avec des niaiseries dans le marché de Montréal. Il y a une photo qui circule après un gros but important du Canadien que le Canadien a publié sur Instagram. Tout le monde célèbre au banc, sauf Patrick Laine. Puis là, la grande affaire, là, tout le monde est parti en peur de « tu vois bien mauvais coéquipier et tout ». Peux-tu venir un petit peu clarifier l'air autour de cette situation-là?
Ben si, il n'a pas été capable de se lever là, à ce moment-là, il y a peut-être une raison. Parce que Patrick Laine, c'est un gars qui se lève au banc, tu comprends? Puis c'est peut-être parce qu'il y avait de la misère à bouger. Je dis ça, puis je dis rien. Mais en réalité, ça ressemble peut-être pas mal à ça. Puis, dites-vous une chose, là. Je ne suis pas dans le vestiaire avec les gars, c'est certain. Mais s'il y a quelqu'un, puis ça, c'est évidemment en parlant aux coéquipiers de Patrick Laine, s'il y a quelqu'un qui est extrêmement généreux de sa personne, c'est Patrick Laine. Lui, quand c'est le temps de mettre de l'argent au tableau, quand c'est le temps d'aider un coéquipier pour une fondation, quand c'est le temps de n'importe quoi, là, parler aux joueurs des Canadiens, ils vont vous dire, Patrick Laine, là, c'est toujours le nom qui est en haut, numéro un. C'est celui qui est le plus généreux, c'est celui qui s'assure, ben, cet argent-là, quand, hein, Gilbert, cet argent-là qu'on ramasse, quand on met de l'argent au tableau, ben, ça s'en va dans des parties. Halloween, ouais. Noël.
Astor, ils ont un petit peu moins besoin de ça, là, mais je comprends que ça va encore là-dedans. Là. Tu sais, nous autres, le 100$ qu'on mettait, c'était le fun. Tramassant un pote, mais Astor, ils font des team dinners à 200 000. Fait que, tu sais, il faut faire la même affaire.
Mais
tu sais,
je comprends
tout ça. Je comprends tout ça. Là. Puis, oui, je vais lui donner le bénéfice du doute. Puis, j'en ai parlé la semaine passée. Je comprends, mais là, c'est 5 games, Patrick Laine, il n'y a pas de goal. Là. Je comprends que c'est un bon coéquipier. Je comprends.
Pas de goal,
que...
mais pas menaçant, je dirais.
Ben, c'est ça, là. Et ben, un moment donné, comme disait mon grand-père, ma grand-mère, mon père, un moment donné, Renaud, il va falloir qu'il la mette dedans, là. C'est parce que c'est bien beau, là. Il est correct, il nuit pas, whatever, mais il est là pour quoi, lui? Il est là pour scorer.
OK, mais si je regarde son temps de glace moyen à mon beau Patrick, là, l'année, là, cette saison, là. Il ne doit pas être très, très en haut des 10
d'abord, minutes. D'abord, c'est 10-11 minutes, 12 minutes. 10-11-12, d'après moi, dans
la
moyenne.
On va aller voir tout de suite. Là, je veux dire, c'est pas très, très élevé là, dans son cas. Là. Puis c'est sûr que plus il y a de l'avantage numérique, plus il va jouer. Mais tu sais,
on a eu des powerplay. Il y a une game qu'on a eu 10.
Contre Chicago, exactement.
Puis il a scoré combien sur le powerplay l'année passée? 18 goals sur le powerplay sur ses 20 cucks. En 50 games, whatever, c'est son pain et son beurre. Puis mais moi, je suis un peu avec Tony là-dessus. Je comprends, puis je donne le bénéfice du doute, mais il faut qu'il soit un petit peu plus dangereux. Là.
Il était sur quel powerplay l'an passé?
Ouais. Première unité.
Cette année, il est sur quel powerplay?
Deuxième unité. Pour répondre à la question, Gilbert, c'est 15 buts l'année passée.
Renaud, il faut arrêter de chercher des excuses. Là. Je comprends, là, mais s'il avait scoré, que ça avait cliqué en partant, il serait peut-être sur le premier. Je le sais pas. Okay. Là. Je veux pas. Puis, tu sais, je veux pas casser du sucre sur son dos. Là. Mais tu es là pour scorer des goals, tu es là pour prendre des shots, tu es là pour être dangereux. Il faut qu'il commence à être ça. Puis je comprends, là, puis je suis d'accord avec toi que c'est un no-brainer, tu sais, un gars qui a Owen Beck, puis comparé à Patrick Laine. Patrick Laine, c'est un game-breaker, c'est un game-changer, c'est un gars qui peut scorer voilà. N'importe quand. Je comprends très bien ça. Mais Calvas, il faut que tu le démontes soir après soir après soir, non?
Mais j'aime mieux l'avoir dans mon line-up que pas dans mon line-up.
Ouais, c'est mais dangereux bien. Dans ton line-up, dangereux dans ton line-up.
Oui, attends,
de jouer défensivement. Kirby Doc, puis Owen Beck, puis Joe Veleno sont capables de jouer défensivement. Là.
Gilbert, ils jouent, OK, son joueur de centre, puis c'est absolument rien contre Jake Evans, mais c'est quand même le quatrième joueur de centre de l'équipe. On pourrait même peut-être dire le cinquième, on va y aller à quatrième. OK? Quatrième joueur de centre de l'équipe. Ils jouent avec Josh Anderson. Je me souviens pas la dernière fois que Josh Anderson a marqué un but.
Il a été un des meilleurs joueurs du Canadien samedi soir, là, Jake Evans.
Oui, je suis d'accord, mais je n'étais pas en train de te dire que ce ne sont pas des bons joueurs de hockey. Je fais simplement te dire que ce ne sont pas des joueurs très offensifs. Qui ont
non, pas
une, ils n'ont pas
raison.
Une grande game offensive.
Ils ne sont pas là pour scorer. Tu as raison, ils sont là pour mettre du momentum. Tu as raison.
Voilà. Patrick Laine, c'est sûr que si on pose la question à tout le monde, est-ce que Patrick Laine a d'affaires sur un quatrième trio? Non. Mais s'il y a des joueurs en avant de lui qui sont meilleurs que lui pour jouer sur les trois premiers trios, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, la réalité. Je pense que Martin Saint-Louis, en même temps, ne veut pas sortir Patrick Laine de sa formation. Pas parce qu'il doit quelque chose à Patrick Laine. Il ne lui doit absolument rien à Patrick Laine. Mais il y a une raison pourquoi il le met dans sa formation. C'est que cette arme-là, quand on en a besoin, elle va être importante. Puis, je le sais, là, vous allez me dire, on la voit pas. Il y a 6 lancés depuis le début de la saison. C'est correct. Mais ça arrive aussi que dans des matchs, oups, il y a un joueur qui sort. Oups, il y en a un deuxième qui sort. Oups, là, je me retrouve avec Patrick Laine sur un deuxième trio. Puis à partir de ce moment-là, peut-être que j'ai un autre genre de match de Patrick Laine. Ouais. Mais en attendant, il est dans une position, le kid, un peu plus vieux, là, mais il est dans une position qui n'est pas favorable pour lui pour avoir du succès. Est-ce qu'il baboune? Est-ce qu'il fait des déclarations à l'importe-pièce? Est-ce que c'est une nuisance? Moi, je le vois pas du tout comme une nuisance. Moi, je m'ennuyais de lui samedi soir, pour être très honnête.
On va dire, il y en a un que je m'ennuyais de lui samedi soir, c'est Caden Goulet, Renaud. Puis ouais, malheureusement, on a appris ça 4 à 6 semaines. Je veux t'entendre là-dessus après la pause. On en a aussi un petit peu plus, peut-être, sur Goulet, qu'est-ce qui se passe. L'informateur Renaud Lavoie, au retour. On est toujours en conversation avec Renaud Lavoie dans le Club du matin jusqu'à 10h ce matin. Renaud, je veux t'entendre sur Caden Goulet. Très, très mauvaise nouvelle pour le Canadien. 4 à 6 semaines. Ça va faire mal, honnêtement, à la brigade du Canadien.
Oui, ça fait déjà mal d'une certaine façon parce que c'est un gars qui joue au hockey, qui peut faire la différence avec une grosse mise en échec comme on a vu dans le match face aux Blackhawks de Chicago il y a une semaine.
Ouais.
Ça avait été une mise en échec qui avait changé beaucoup de choses dans cette rencontre-là. Puis Caden, c'est un joueur qui continue de prendre de l'expérience dans cette ligue-là. Puis pour Caden Goulet, c'est une saison où lui, son objectif, c'était quoi, les gars? Arrêter de se retrouver sur la liste des blessés.
Eh ouais.
Il y a une pause là, de saison. Là. Chaque saison, là, il se retrouve sur cette liste-là pour toutes sortes de raisons. Puis ça devient vraiment problématique pour lui. C'est pour ça que c'est un gars qui était, évidemment, là, ça faisait quelques jours qu'il ne pratiquait plus. N'oubliez pas que pendant le camp d'entraînement, en raison d'une blessure à l'aine, il a raté des matchs, il a raté des entraînements.
C'est ça, là, encore? C'est une blessure à l'aine, possiblement?
Tu regardes la façon dont les choses se sont passées pour lui. Il se fait frapper dans le coin. Il est en retard en plus sur le jeu. Il commence à patiner, il fait deux pas, puis il glisse sur la glace, puis capable d'avancer. Là, je veux dire, il y a quelque chose qui a arraché. Là,
ben moi, ça me fait peur. Sais-tu quoi, Renaud? Puis je t'ai parlé au gars tout à l'heure. Là. Tu sais, une blessure à l'aine, 4 à 6 semaines. Là. Moi, je n'ai eu des blessures à l'aine. Là. Une blessure à l'aine, c'est pas 4 à 6 semaines.
C'est traite, l'aine.
Je le sais, c'est traite si c'est grave. Parce que il y en a dans le passé qui ont nécessité des chirurgies, là, des blessures à l'aine.
Ouais. Tout le temps pas repoussé.
Puis une blessure à l'aine peut créer d'autres blessures aussi. Hein. Tu le sais très bien.
Qu'on pense ailleurs.
Exact. Donc, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que Caden Goulet, là, lui, là, c'est quelqu'un là, que quand on lui pose la question « Es-tu correct, Caden? » La réponse est tout le temps « Oui ». Tu comprends? Parce que la dernière chose qu'il veut... C'est de dire, pas de dire, mais de rater des matchs, de se retrouver encore sur une liste des blessés. Ça veut dire que dans sa tête, lui, après le match, là, il est correct, là, puis il va être correct pour le match de samedi. Mais en réalité, t'as des tests à faire, là. Excuse-moi, là. T'as fait deux enjambées, t'es tombé sur la glace, puis t'as de la difficulté à te relever. Je comprends qu'après ça, sur le banc, tu disais à tout le monde que t'étais correct, mais en bout de ligne, tout le monde a bien fait de dire, non, là, t'sais, on va attendre, là. Tu sais, je veux dire, tu as raté des entraînements cette semaine. Il y a quelque chose qui se passe. D'une manière ou d'une autre, je pense que les Canadiens, jeudi soir, n'étaient pas en mode faut absolument le faire jouer immédiatement. On essayait d'aller marquer le but égalisateur puis d'aller chercher le but gagnant. En bout de ligne, c'est une blessure qui fait mal à l'équipe. C'est une blessure qui fait mal à Caden Goulet parce que mentalement, pour lui, ça devient difficile de se retrouver dans cette situation-là où tu n'es pas capable d'être avec tes coéquipiers pendant au moins 82 matchs. C'est pas, au moins que tu joues 60, 75 matchs dans une saison. Arrêter tout le temps une vingtaine devient très lourd, pas pour l'organisation seulement, pour lui mentalement. C'est très difficile d'avoir toujours cette situation-là qui est devant lui. Est-ce que le joueur devrait être plus prudent? Quand tu sens justement que, oups, t'es obligé de rater des entraînements, oups, il y a peut-être un problème qui est plus important, est-ce qu'on devrait se dire, écoute, on va te faire rater un match ou deux, mais si le joueur ne veut pas rater de match, veut jouer absolument, veut être là pour ses coéquipiers, puis surtout lui, dans la situation dans laquelle il est, moi, je respecte ça. Tu vas aller à la guerre avec tes chums, puis tu sais que t'es un rouage important. Là, c'est plate. Absence de 4 à 6 semaines. Tu sais, Brandon Gallagher, il est passé par là de jouer avec des blessures importantes. Puis là, whoops! À un moment donné, Brandon nous a dit, il va falloir que j'écoute mon corps un peu plus. Tu sais, puis là, Brandon Gallagher ne rate plus de match. Alors, un jour, ça va arriver à Caden Goulet. Souhaitons que ça va arriver plus tôt que plus tard.
Ben, moi, là, ce qui m'embête, Renaud, un peu là-dedans, là, dans le cas de Goulet, là, si je suis à la place de Kent Hughes et Jeff Gorton, j'ai deux de mes jeunes défenseurs, Goulet et Reinbacher, qui sont toujours blessés. Ça, c'est bien embêtant parce que ça déborde pas tant que ça dans le pipeline chez les défenseurs. Ça t'handicape un peu, ça t'attache les mains parce que tu sais jamais d'un jour ou l'autre si ces gars-là vont être capables de jouer. Mm-hmm. Quand ils sont sans glace, c'est bien prometteur. Goulet, c'est déjà de l'acquis. C'est un joueur qui appartient à un top 4 de la Ligue nationale. Puis Reinbacher, ben, on veut qu'il soit là un jour. Là, tes deux gars piliers en bas de 24 ans, ben, il y a un paquet de questions en lien avec leur état de santé à long terme. Ça, t'es l'organisation, pour moi, c'est très inquiétant.
T'as raison que ça devient inquiétant. J'ai parlé à Kent Hughes du cas Ryan Backer. Il dit, écoute, là, dans le cas de David Rembacker, quand on regarde la blessure à sa main présentement, il dit, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ah. Herbert Jacquard aurait pu recevoir ce lancer-là sur une main, mm-hmm. puis se casser la main aussi. On comprend ça, là. Mais en bout de ligne, on s'entend que lorsqu'il revient au jeu, il faut que ses blessures aux genoux et tout ça, ça fasse partie du passé. Là.
Ouais, on peut dire la même chose, la coupure à Goulet, ça aurait pu arriver à n'importe qui.
Absolument.
C'est vrai. C'est ça. Mais là, c'est parce que là, c'est l'accumulation à travers le temps. Caroline, on dirait que c'est toujours sur son dos.
Oui, exactement. Puis, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a des joueurs qui, quand ils sortent tout le temps de la formation en raison de blessures, oui, ça force les dirigeants de l'équipe, tu fais bien de le mentionner, à dire, on va être obligé de trouver quelqu'un d'autre pour remplacer ce joueur-là. Pas pour l'échanger un contre un nécessairement, mais c'est-à-dire, on peut pas, mettons, arriver en séries éliminatoires, puis whoops, perdre Caden Goulet pendant un mois de temps en série, parce que c'est-tu quoi? Non, il va falloir que tu aies quelqu'un, un backup, puis ça va rentrer ça dans la tête. Je suis convaincu des dirigeants de l'équipe qui vont se dire, bon, ben quand on va avancer dans la saison, souhaitons tous du bois qu'il n'y ait pas d'autres blessés à la ligne bleue, etc. Mais si tu dois aller chercher un défenseur pour terminer une saison, justement, au cas où Caden Goulet se blesse, ou un autre défenseur pour amener de la profondeur, t'as pas le choix de le faire.
Ouais.
Mais les saisons de hockey, ça sert à ça aussi. Hein? Ça sert à montrer aux dirigeants de l'équipe, OK, est-ce qu'Herbert Jacquard est capable de jouer tous les matchs? Est-ce que Jaden Struble est capable de jouer tous les matchs? Là, au moins, tu vas avoir une réponse à tes questions. Là.
Ouais.
C'est pour ça que c'est 6 semaines importantes pour les deux noms que je viens de mentionner.
Absolument.
Ouais, ça, c'est vrai.
Absolument.
Ça, c'est
sûr et certain. Oui, puis il va falloir leur donner, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, les gars, là, leur faire confiance un petit peu sur le piqué aussi. Là.
Pas le choix.
Parce que tu veux pas surtaxer Matheson tout le temps et tout ça. Moi,
mais
je pense qu'ils sont capables de le faire sur le piqué, les gars. C'est Struble et Jacquard, ils sont capables de le faire.
Tu regardes la tête de là, ce samedi. Là, 24-21 Matheson, 23-40 Hudson, 22-46 Dobson. Et après ça, c'est 17-54 Carrier, 16-22 Struble. Évidemment, Jacquard a laissé tomber les gains. Là, ouais. Limité à seulement 10 minutes dans le match de samedi. Renaud, on va t'écouter dans le Gate cet après-midi, puis on se reparle demain après le match contre les Sabres de Buffalo.
Salut, Ren.
Salut, gars. Les gars, passez une belle soirée, une belle journée.
Toi aussi, dans la ville des vents. T'es encore là aujourd'hui, là, ou tu t'en viens?
Oui, je vais rester ici, non, parce que je dois aller rejoindre l'équipe à Calgary demain. Donc, j'ai fait la
moitié du chemin. Ben oui.
Bonne idée.
Logique.
Petite ville, Chicago, pas une méchante ville. Chicago, tu restes à quel hôtel, juste pour le fun, là?
Là, je suis au Méridien. Première fois, on voulait coucher pas loin du Soldier Field parce que prendre l'avion le matin, là, le dimanche matin, pour aller au match, tu veux t'assurer de pas marcher trop longtemps pour aller au stadium. Comme on dit.
Est-ce que le Drake existe encore?
Le Drake existe encore. Oh. Ça, c'est une institution qui ne disparaîtra jamais, mon cher.
Ça, t'avais des petits bonhommes là, dans l'ascenseur qui gaisaient. C'est le genre de manette là, pour monter et descendre. Là, vous êtes trop jeune, non? Quel hôtel! Il y avait, les gars, là, le Drake, là, c'était le meilleur pre-game meal dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ah, c'était bon.
Ouais.
Ah, nous autres, on jouait dans les playoffs. On avait des pre-game meals, des post-game meals, des soirs avant la game. C'était le fun en tabouette au Drake. Vraiment une belle place.
On peut éliminer en 5, mais on va retourner pour aller en 6.
Ouais,
en
7.
Exactement.
Salut, Renaud. À demain.
Salut, bonne journée.